Pas comme les autres. Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Alors, comme vous le savez, il y a une guerre civile qui fait rage, une guerre civile entre guillemets, qui fait rage au sein du Parti Québec solidaire entre les tenants de ce qu'on pourrait appeler la gauche traditionnelle qui défendait les petits travailleurs et les apôtres de la religion woke pour qui on n'est jamais assez à gauche. Donc, Christian Rioux, aujourd'hui, dans sa chronique, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur ici à Cube Radio, traite de ça, entre autres. De cette dérive de la gauche, de cette guerre qui a lieu, pas seulement à Québec solidaire, mais on pourrait dire presque dans tous les partis de gauche, c'est au Parti démocrate aux États-Unis, c'est au Parti socialiste en France, c'est un peu partout. Donc, il est avec nous. Bonjour, Christian Rioux.
Bonjour, Richard.
Je veux tout d'abord citer un bout de votre chronique. J'aime toujours ça, citer votre chronique et votre belle plume. Donc, vous dites, si on avait dit à un militant syndical des années 1980 que la gauche lui reprocherait un jour son racisme systémique et sa culture du viol, qu'elle défendrait le droit de changer de sexe, qu'elle tiendrait des rencontres non mixtes, il tomberait en bas de sa chaise. Il serait tombé en bas de sa chaise. Et effectivement, elle a changé beaucoup, la gauche.
Oui, écoutez, la gauche, c'est en 20 ans, je pense, c'est complètement métamorphosé. C'est-à-dire que on vient tous d'un monde où la social-démocratie était dominante, et un monde, moi, que je qualifie d'apaisé, hein, avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. On a vécu, je pense qu'on a vécu, beaucoup de gens qui disent c'est terrible aujourd'hui les polémiques, mais moi je pense qu'on a vécu une espèce d'âge d'or de la politique et de la conversation que j'appellerais démocratique où grosso modo il y avait une classe moyenne assez forte, où il y avait une classe moyenne qui avait un bon niveau de vie avec des mesures sociales, et on s'est mis tranquillement à détruire ça. Et tranquillement, on a vu réapparaître des oppositions de classe, et justement, on a vu la gauche se radicaliser. C'est-à-dire que je pense, moi, que la social-démocratie, rappelons-nous René Lévesque, rappelons-nous Jacques Parizeau, rappelons-nous François Mitterrand, qui étaient quand même des figures consensuelles, je pense que la social-démocratie s'est quelque part suicidée. Et bon, moi, étant en Europe, je me suis retrouvé un peu spectateur de ça, allant couvrir des élections en Allemagne, où je voyais le SPD s'effondrer tranquillement, allant en Grande-Bretagne, où on a vu le parti de Tony Blair s'effondrer, et je vous dis pas la France, parce que la France, c'est peut-être c'est le pire, hein, aujourd'hui. Il y a à peu près, je pense, quand on fait des sondages, il y a à peu près 24% des gens qui se disent de gauche en France, hein, la France de François Mitterrand et tout ça. Donc, on a vu l'effondrement, et on a vu en même temps une gauche qui, au lieu de se dire, bon, on va essayer de reconquérir l'électorat, on va essayer de reconquérir, de s'adapter, d'essayer de répondre aux demandes des milieux ouvriers, des milieux populaires, comme le syndicaliste que je vous cite, non, qui a choisi au contraire de dire non, nous on a raison, on fait une sorte de fuite en avant. Et on devient racialiste, on devient hyper féministe, à peu près hyper n'importe quoi. Et l'exemple que vous me donnez de Québec solidaire, je pense que cet exemple a achevé. Bien sûr, Québec solidaire a des problèmes avec son comité décolonial et antiraciste, je pense, il s'appelle comme ça, là, le CAD. Mais dans le fond, Québec solidaire se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue, parce que Québec solidaire a joué sur ces questions-là, a joué sur cette radicalisation-là. Vous savez, aujourd'hui, les propos de René Lévesque, qui se définissait comme un social-démocrate, qui se considérait comme, qui était un admirateur à l'époque de la social-démocratie suédoise ou scandinave, aujourd'hui, ses propos seraient considérés comme de droite, comme réactionnaire. Je sais pas, il serait renvoyé dans ce que ces gens-là appellent aujourd'hui la fachosphère, mais à peu près tout le monde se retrouve retrouve là aujourd'hui.
Voilà. Québec solidaire, finalement, récolte ce qu'ils ont semé. Mais vous savez, Christian, c'est un anniversaire qu'on célèbre ces temps-ci.
Oui.
Parce que en mai 2011, donc il y a exactement 10 ans, le Parti socialiste se tournait vers un think tank de gauche qui s'appelait Terra Nova en disant « Aidez-nous, ça ne va pas, le Parti socialiste, ça ne fonctionne pas, la gauche en France. » Et littéralement, Terra Nova, vous le savez, je vous apprends rien, Christian, Terra Nova qui a dit « Arrêtez de courtiser les petits travailleurs, ils votent à droite, les petits travailleurs, abandonnez cet électorat-là et tournez-vous vers les immigrants. » C'est ça qu'on leur avait dit, là. Ça fait 10 ans, ça, c'était en mai 2011.
Oui, oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Mitterrand, qui était arrivé quand même au pouvoir par une espèce c'est pas la première fois qu'il se présentait, hein, c'était à peu près la quatrième fois, qui est arrivé quand même avec une espèce de grand consensus là de milieux syndicaux, de couches populaires, se retrouve effectivement au bout d'un certain nombre d'années à quelque part à tourner le dos à cet électorat pour aller chercher un électorat nouveau qui est essentiellement un électorat immigrant et l'électorat, je vous dirais, des minorités. Terra Nova, c'est la thèse justement de la concertation des minorités, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des minorités particulières et on essaie de se construire un électorat avec ça. Et surtout, on abandonne, je dirais, la vieille classe ouvrière, les milieux populaires qui souffrent, eux, de la désindustrialisation, et la désindustrialisation de la France va s'accélérer avec Mitterrand. Et de plus en plus, on va abandonner cet électorat-là qui est plus au goût de la gauche. Vous savez, la gauche a rêvé d'une classe ouvrière qui prendrait le pouvoir, qui deviendrait de gauche communiste. Mais bon, cette classe ouvrière-là, elle veut améliorer sa situation, elle veut vivre en famille, elle veut pas remettre en question et faire sauter tous les tabous sociaux possibles et imaginables. Et donc, c'est ce qu'on appelle au Québec du monde ordinaire. Et donc, ces gens-là, tout à coup, on va se mettre à les, quelque part, je dirais même à la limite, à les détester. Regardez comment nos humoristes aujourd'hui, progressivement avec les années, se sont mis à caricaturer l'ouvrier. L'ouvrier qui vont des champs glorifiés, hein? Qui vont des champs admirer la classe ouvrière, les milieux populaires de Saint-Henri. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on les déteste.
On les méprise.
On va suivre exactement cette direction-là. Et Québec solidaire est le résultat de ce virage-là et de cette façon justement de se détacher de ces milieux-là pour aller chercher des votes immigrants, des votes de femmes, des votes homosexuels, des votes, enfin, nommez-les, toutes les minorités possibles et imaginables.
Qu'est-ce que disait Bertolt Brecht des gens, si le peuple ne vote pas pour vous, changez de peuple? C'est ça?
Oui, c'est ça. Quand on n'est pas content du peuple, on change de peuple. C'est un peu ce qu'a fait la gauche. Et regardez, la situation aujourd'hui de la gauche est absolument catastrophique. Hein? Dans ma chronique, je cite un sondage justement qui vient d'être fait, là, qui est sorti, je crois, cette semaine par la Fondapol. On s'aperçoit qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Italie, la gauche, c'est 25% de la population, alors qu'on assiste en France, par exemple, à une progression en 5 ans de 5% de gens qui s'auto définissent à droite. Mais on s'aperçoit que de plus en plus, dans le fond, on a même plus à s'auto-définir à droite, on est exclu de la gauche. C'est-à-dire, pour peu qu'on ait une réflexion un peu qui a un peu de sens commun, qui essaie de se rapprocher de ce qu'on pense dans la société, de la façon dont on vit normalement, eh bien, on devient tout à coup un ennemi de la gauche et on est renvoyé. Et Québec solidaire, je trouve, est l'exemple de ça, de cette espèce de radicalisme, de ce jusqu'au-boutisme qui ne mènera nulle part. Hein. Manon Massé peut bien se plaindre du cadre. Elle-même, elle parle de décoloniser notre histoire. Elle parle de ce genre d'aberration, d'espèce de table rase. Hein. On a l'impression que ces gens-là aiment pas le monde dans lequel on peut vouloir réformer le monde. Hein. On peut vouloir, mais faire de la politique et vouloir se débarrasser de tout, c'est embêtant.
Tout à fait. Et j'aime bien le début aussi de votre chronique, parce que bon, souvent ces temps-ci, lorsqu'on regarde ce qui circule dans les médias sociaux, on dit ça n'a aucun sens. On a perdu totalement la capacité de discuter, de débattre avec toutes ces insultes-là. Mais vous dites c'est pas nouveau, parce que vous citez cette phrase épouvantable de Jean-Paul Sartre qui disait tout anticommuniste est un chien. Et c'est vrai qu'il avait dit ça.
Oui, oui, oui. Jean-Paul Sartre a dit ça dans une entrevue en 1965, mais il en a dit d'autres aussi assez belles, hein, en soi, en disant que d'abattre, que de tuer, que d'assassiner un Européen, c'était faire d'une pierre deux coups. On supprimait un oppresseur puis un opprimé, parce que comme ça, il y avait un oppresseur de moins, il y avait un opprimé de moins. Donc, vous voyez un peu. Mais bon, je cite ça pour pas pour faire le procès de Jean-Paul Sartre, là, parce que ce serait compliqué, ce serait long, mais pour montrer que des époques de confrontation violente et forte, on en a vécu. Et je pense que, comme je vous disais, nous, on sort d'une période, on est un peu des enfants de cœur dans tout ça. Et c'est sûr que les réseaux sociaux accentuent la polémique, c'est une espèce d'amplificateur, dans le fond, de toutes ces choses-là. Et c'est profondément désagréable, très, très souvent. Mais je pense que c'est la cause, c'est pas les réseaux sociaux. La cause, c'est que la société, aujourd'hui, se polarise. On a ébranlé le consensus des années 70, 80. On a sectionné, on a fait éclater la classe moyenne, on a fait entrer une population, par exemple en France, on le voit, une population immigrante qui est en concurrence avec la population des milieux populaires, qui prend sa place même dans les HLM, qui donc vient bouleverser toute la structure sociale du pays. On a fait ça en pensant que ça, hein, vous savez, on a une espèce d'ingénierie sociale là, où on pense qu'on pèse sur un bouton, on pèse sur un autre, on change la répartition, on change la société, on pense que ça n'aura pas d'effet, mais ça a des effets. Et je pense que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est amplifié par les nouveaux moyens de communication, mais ça montre qu'il y a des oppositions fortes dans la société aujourd'hui et qu'on est revenu, je pense, à des périodes beaucoup moins paisibles, beaucoup plus agitées, où il y a des oppositions sociales. Ça se sent un peu moins au Québec, vous savez, parce que, pour toutes sortes de raisons, parce que, le Québec est plus prospère que l'Europe, donc la prospérité, ça aide à atténuer. La question de l'immigration est ressentie de façon un peu moins forte, bien qu'au Québec, elle l'est aussi pour des raisons, d'autres raisons, la question de la langue, hein, la question de l'identité, de l'intégration. Mais je pense que tout l'Occident vit ça, c'est-à-dire on vit l'effritement de la classe moyenne, on vit le fait que aujourd'hui il y a des vraies oppositions de classe, par exemple entre les classes instruites, ceux qui sortent de l'université, mm-hmm. et les milieux, on l'a vu aux États-Unis, la question du niveau d'éducation était cruciale pour savoir qui votait pour Trump ou qui ne votait pas pour lui, et donc on voit aujourd'hui, je pense, des oppositions de classe qui sont fortes, et c'est ça qui explique la rudesse du débat. Il faut pas. Moi, je pense qu'on pourra moraliser les gens tant qu'on voudra. On pourra leur dire soyez gentils, ne nous insultez pas, ne faites pas ceci. On pourra leur faire la morale tant qu'on voudra. Ça changera rien. Il faut s'attaquer aux vraies contradictions dans la société.
Mais Christian, il fut un temps quand même où le débat était beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, pacifique. Je suis en train de lire l'ouvrage d'Eugénie Bastier que vous avez probablement lu, La guerre des idées, où elle parle qu'il y a eu pendant, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être une période de grâce où on pouvait avoir quelqu'un d'extrême gauche et d'extrême droite discuter sur des plateaux de télévision de façon tout à fait civile. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre chronique, apostrophe, on pouvait avoir Jean d'Ormesson qui était à droite, puis Philippe Solers qui était maoïste, qui discutaient ensemble avec respect.
Oui, absolument. Je dirais qu'on a vécu cette époque-là parce qu'on était dans un entre-deux, c'est-à-dire que la guerre froide se terminait, les grandes oppositions justement de l'époque où Sartre faisait ce genre de déclarations-là étaient un peu passées. Le communisme était en train de s'effondrer, plus personne pouvait se permettre de le défendre là comme auparavant. Et on était avant la période d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a... Oui, il y a eu une période de trêve comme ça. Évidemment, comme nous, on est nés dans cette période-là, on a grandi dans cette période-là, on a été actifs dans cette période-là. On pense que c'est le monde entier, mais avant, c'était pas comme ça. Puis après, ça sera pas nécessairement comme ça. Et je le répète, les appels à la morale pour moraliser le débat, ne faites pas ci, ne faites pas ça, je pense, ne donneront rien si on s'intéresse pas à la situation, notamment des milieux populaires, des milieux qui se révoltent aujourd'hui en ce moment, qui justement votent à droite ou votent même à l'extrême droite ou votent même des fois pour des gens assez bizarres comme Donald Trump. Et donc, si on s'attaque pas au vrai problème de ces gens-là, on pourra bien faire la morale à tout le monde et passer tout le monde dans le confessionnal. Dès qu'ils vont sortir, ils vont recommencer. Hein. Ça changera rien.
Merci beaucoup, Christian. En tout cas, votre chronique, donc, La guerre de tous contre tous dans le devoir, du grand Christian Rioux, une plume fantastique, un éclairage qui illumine et aussi vraiment plein de références historiques aussi. Merci beaucoup. Bonne journée, Christian
Rioux. Merci infiniment, Richard. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine.